nous allons passer à la traditionnelle session questions-réponses, mais je vais m'octroyer les deux premières petites questions. La première, simplement de contextualisation, tu nous as expliqué comment tu es arrivé sur ce terrain chez les Murcies, en courant après les vaches finalement, après avoir couru après les athlètes. Et j'aurais aimé que tu nous donnes quelques informations de plus sur comment s'est passé finalement ton séjour chez les Murcies. Parce que bon, on parle de vaches, de relations particulières à celle-ci, mais ta vache, elle est devenue quoi? Est-ce que tu en avais une? Et comment ça s'est passé? C'est la première petite question. La deuxième petite question, enfin c'est pas une question, c'est une demande d'ajout. Est-ce que tu pourrais nous parler de, alors je ne me rappelle jamais de son nom, Olissi Rally,
ouais.
Voilà, que je montre ici dans le bouquin,
l'ai mis, je crois.
Que l'on voit ici pris dans le métro, parce que tout ce que tu expliques autour de l'usage, des couleurs et de la...
Ah. À table.
Comment?
À table. Non,
comment ça, à table?
Non, je montrais une image un peu...
Ah oui, pardon. Tout ce que tu expliques autour des noms et de l'usage des couleurs et de la façon dont c'est mis en scène, mis en œuvre par les personnes, d'accord? Il y a beaucoup de complexité derrière, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre et à saisir. Et moi-même, en fait, dans la lecture de l'ouvrage, eh bien, j'ai eu cette compréhension, finalement. En tout cas, beaucoup de clarification avec ce que tu racontes en conclusion sur Olissi Rally la propre révélation que toi-même tu as eue en l'observant dans un séjour parisien à tes côtés. Voilà pour les deux questions de base, et puis après, on passera à l'assistance.
Pour la première question, je crois que c'est le cas... pour le coup, là, de tous les ethnographes, hein, que ce soit des terrains lointains, proches ou quoi, on est forcément capté par les personnes chez qui on est. Alors évidemment, quand on est dans une homologie culturelle et de classe sociale, évidemment, c'est beaucoup moins significatif. Quand l'écart est un petit peu plus grand, comme dans mon cas, moi, j'essaie de faire rentrer ces gens dans ma tradition intellectuelle qu'est l'anthropologie. Eux, ils essayent de me faire entrer dans leurs usages aussi. Évidemment, vu l'importance des noms, des couleurs et des vaches, on est forcément soumis à ça assez vite. Et ce qui est le propre aussi du travail que l'on mène, c'est qu'une partie... en fait, on est des scientifiques parce qu'on fait des expériences. Alors, on ne fait pas des expériences avec des pipettes dans des labos et tout, mais on fait une expérience ethnographique. Nous sommes l'outil de l'expérimentation de plein de choses. Donc, ce n'est pas des protocoles reproductibles, mais on vit quand même des choses. On essaie d'en tirer des conclusions. Donc, il y a les faits entre les personnes et nous, des fois, on est complètement dedans. Et c'est vrai que ces noms multiples, en fait, j'ai mis un peu de temps d'abord à savoir qu'ils existaient. D'abord parce qu'il faut apprendre la langue et qu'au début, bon, on sait dire cuillère, rivière, j'ai faim, et puis c'est petit à petit que le lexique et que la syntaxe se met en place. Puis les gens, quand on leur demande quel sont ton nom, ben, ils en donnent un, ils n'ont pas donné une liste, quoi. Et puis c'est d'un côté, quand j'avais l'impression que dans les discussions, quand je commençais à comprendre un peu mieux, que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les discussions qu'en vrai. C'est là où j'ai commencé à avoir un doute. Et puis aussi, quand je me suis dit, Jean-Baptiste, à prononcer, c'est pas le plus simple quand on n'est pas un Français. J'ai dit, moi, c'est Jamba. Au Kenya, ça marchait parce que Jambo Buana, c'est bonjour monsieur en Swahili. Donc j'avais déjà fait cette expérience-là, Jamba. Et puis il y a des gens qui m'appelaient Jambi, puis Jamboui, puis machin. Et moi j'étais là, non, Jamba. Et puis non, Jambi, quand même, Jamboui, toi Jamboui. Hein. Et en fait, au début c'est un peu étrange, on se dit, non mais Jamba, le A, c'est pas si compliqué, c'est mon nom, respecte-moi. Et en fait, j'avais déjà, j'avais pas perçu, mais ils étaient déjà en train de faire, moins la couleur, le processus de déclinaison. Qu'il y ait une erreur au début de prononciation ou qu'il y ait une volonté réelle de mettre une variation pour commencer à particulariser. Non, pour moi, t'es pas Jamba, pour moi, t'es Jamboui, puis pour moi, t'es Jambi, puis ainsi de suite. Donc, il se passait ça. Et puis après, je voyais ces femmes qui fabriquaient aussi, puisqu'une partie du boulot, c'est aussi de fabriquer toute cette esthétique, réciter les poèmes, les pensées, payer des gens pour les faire à sa place. Il y a aussi un enjeu qui est là, et créer ces ornements. Et je voyais une personne qui était en train de mettre des perles autour de son collier, et je lui dis, ah, moi, je veux ça. Je trouvais ça joli. Voilà. Et j'étais là depuis deux semaines, hein, donc je n'étais pas encore très, très au fait de tout ce qui se passait. Et je dis, je veux ça. Et en fait, elle me dit, il n'y a pas de problème. j'aime, demain je te le donne, et demain elle me donne un collier qui n'est pas le même. En fait. Et en fait, elle me dit, bah, j'avais plus de perles, moi c'était blanc et noir, je trouvais ça assez chic, assez classe. Et en fait, elle me donne un truc rouge et noir. Alors, Stade Toulousain, j'étais content, je viens de là, mais ça allait moins avec mon grain de peau peut-être. Mais du coup, j'étais moins content, mais je le mets parce que j'avais aussi cette espèce de demande sociale répétée de il faut mettre des choses. Il faut... Et puis là, on a commencé à m'appeler Oletula, qui veut dire bœuf rayé. Puisque chacun a un collier qui encode de manière assez précise la couleur en fait, de référence. Et à partir de là, ben, j'ai été Tulaterio et j'ai été Orion, c'est un serpent avec des rayures rouges et noires. Et puis il y a des personnes qui commençaient à créer Tulamogyo et qui ont commencé en fait, à m'appeler de noms qui étaient des variations. Et après, j'ai eu mon nom de classe d'âge des anciens, Teo Same. Et oui, dans la recherche, à nos âges, on est des jeunes. Là-bas, on est déjà des anciens. Donc, Théo Samé, qui, par exemple, pour vous donner un exemple, les théos, c'est les petits bouts de bois qui sont plantés dans le sol pour tendre les pots. Et quand le soleil est bas, en fait, ça projette sur le sol une ombre rayée. Et Samé, c'est la frange blanche du singe du... du colobe qui est noir, en fait, avec une frange blanche. Et en fait, la frange a donc... Voilà, donc c'est sur... Et là, on commence à entrer dans le jeu, en fait. Et évidemment, ça va après jusqu'à la possession de vaches. Et là, bon, le but n'était pas que j'ai un troupeau, puisque je n'avais pas prévu de me marier là-bas. Mais bon, voilà, du coup, j'ai fini par en acheter deux, que j'ai laissé en pension, qui était une manière à la fois de rendre service à quelqu'un et de créer de la dette aussi, parce qu'il faut aussi assurer ses arrières. Et c'est aussi en expérimentant ça avec son lot d'erreurs qu'on apprend des petites choses. On n'apprend pas tout, parce qu'on ne peut pas quand même vivre la même vie qu'eux, mais on apprend des petites choses. Et effectivement, là, sur cette image-là, je crois que même en ligne, ils le voient un petit peu, ouais. Ça, c'est Olisserali. Olisserali, c'est un qui il a fini par être capté par une petite mission qui a fini par s'implanter dans le nord du pays Mursi avec des Australiens. Et ça a été le premier Mursi qui a parlé anglais. Ils l'ont amené en Australie. Et puis, puisque c'était le seul personne pouvant avoir la fonction de go-between entre le gouvernement, parce qu'il parlait amharique aussi, et les Mursi, il a fini par être très demandé, y compris par tous les Yann Arthus Bertrand et toute la clique... évolutionniste qui produit des images, et du coup paraître un entremetteur en fait entre deux mondes, voire trois mondes, avec le gouvernement, l'état central éthiopien, les blancs avec toute la constellation de différents intervenants et les Mursi. Et un jour il était bloqué parce qu'il venait pour un festival à Monaco, et pas un festival de film, il avait du coup aidé pour faire un film, il n'avait pas le visa Schengen, il ne pouvait pas aller à Londres. On m'appelle, est-ce que tu peux t'occuper d'Olisserali à Paris ? Déjà, sur le coup, ça m'a fait bizarre, parce que les fois où je l'avais vu, c'était évidemment dans un contexte très différent. Et c'était plutôt vers la fin de ma thèse, et comme tu le dis, quand on fait de l'anthropologie, à un moment donné, on commence à... On a plein de données empiriques, c'est le bazar, puis on commence à les organiser un peu. Moi, là, comme je vous dis, j'ai organisé ça par corpus, j'aurais pu faire autre chose. Et puis on commence à avoir des... manière de rendre intelligible cette masse de données qui marche. En gros, si j'avance 7 propositions, je comprends 3 faits. Mais si je la reformule en faisant ça, j'en comprends 10. Hop, elle marche un peu mieux, je m'en saisis. Le problème, c'est qu'à force d'avoir ce renforcement argumentaire, on peut aussi finir par rentrer les données. Et plutôt que trahir les données pour qu'elles correspondent en fait à nos propositions. Et ce truc de couleur, que je n'ai pas pu vous restituer en si peu de temps, mais il y a quand même au moins 100 pages dans le livre, c'est hyper complexe en fait. Et j'ai essayé d'être extrêmement clair, mais c'est vraiment leurs pratiques qui sont extrêmement riches et subtiles. Mais du coup, à la fin, moi j'ai focalisé sur ça au début parce que ça me semblait important, mais on n'est jamais à l'abri de se dire, est-ce que ce n'est pas moi qui en ai fait trop en fait ? Est-ce que je n'ai pas vu plus d'importance à quelque chose qui est peut-être pas rien, mais voilà. Et puis Olisserali, il arrive à Paris, et hein, je suis en train d'écrire mais un chapitre et tout. Évidemment, quand je l'interroge, le politique, le gouvernement, le machin, c'est compliqué et tout. Voilà. Mais les couleurs, les peintures et tout, rien. Et il est là en ville, il est habillé, il est bien. On est allé à Notre-Dame, on est allé dans le 5e et tout. Bien. Et là, on est ligne 9 dans le métro vers direction mairie de Montreuil. Et en fait, Sirali, ça veut dire toronro, rouge, blanc, rouge en fait. Et en fait, je commence à voir son t-shirt et je fais, s'il est blanc, il est rouge, il est blanc. Je fais, mais est-ce que tu as mis ça parce que tu es sur le rallye? Il fait, bah, bien sûr. Et je fais, et ta chemise hier, avec des poils, l'espèce de Jackson Pollock, là, un truc bizarre. Et en fait, c'était la couleur, parce que évidemment, toute cette complexité, en fait, elle est redoublée parce que toutes les personnes sont associées à deux, trois types de couleurs avec des acceptions qui ne sont pas les mêmes et tout. En fait, celle-là, c'était la couleur secondaire qu'il avait donnée par son père. Et la veille, il avait encore un t-shirt d'une autre couleur vert fluo qui correspond au chae, c'est le même mot pour décrire aussi le gris. Et en fait, toute sa panoplie vestimentaire était l'expression directe des couleurs auxquelles il était lié par l'entremise de ses vaches. Et passage au Décathlon de la porte de Montreuil, il voulait acheter des chaussures pour ses épouses. Et là aussi, en fait, sans me le dire, sans que je le dise, en fait, je connaissais les couleurs auxquelles étaient liées ses épouses, il en avait trois, bah, il prenait les chaussures liées à ça, quoi. Et du coup, c'était des petits choix qui, comment dire, n'avaient pas là d'importance énorme, mais normalement, il y avait toujours cette contrainte d'associer une expressivité de la personne avec ces termes-là. Et du coup, voilà, c'était un peu la version un peu confirmatoire. Comme je vous ai dit, là, cette image au début où j'ai vu des pasteurs autour d'églises et de temples qui gardaient sur leur corps un habitus relationnel qui se vit par des formes esthétiques, ben là, on était un peu dans le même type. Autant ils pouvaient renoncer à tout un tas de trucs, mais ça non, quoi. Voilà. Du coup, ça me rassurait un peu.
Alors, y a-t-il des questions en ligne ou dans l'assistance ?
Des couleurs, enfin, moi j'ai connu les Maasai et tout comme ça. Et alors, effectivement, j'ai pas fait les études que vous. Et on savait qu'ils avaient des tas de noms
pour qualifier leurs vaches et notamment ces couleurs. Et en fonction de ce que vous nous avez dit, qu'on crée des noms, des surnoms, etc. Donc, est-ce que ça, ils inventent toujours des mots et des couleurs pour, dans leur vocabulaire?
Je vais vous montrer une image qui va être parlante. Une fois de plus, beaucoup de travaux sur les couleurs et sur les noms de bétail étaient orientés parce qu'ils avaient mis la focale comme si cette complexité de description visait à décrire uniquement le bétail. Alors qu'en fait, elle a la fonction aussi de décrire les personnes et aussi d'être un outil de description de relations entre les personnes. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que notamment leur classification des couleurs qui ne repose pas sur les mêmes fondements que nous, on a en gros une liste abstraite des couleurs. Alors Newton en a décrit 7. Hein, et en fait, dans l'histoire des sciences, on s'est aperçu qu'il s'était un angélologue au départ. Il étudiait en fait les anges et sa question initiale était de savoir en combien de temps un ange faisait l'aller-retour Terre-Lune. Donc il y avait quand même une base religieuse chez Newton très 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 fort. Et d'un côté, il décrivait la diffraction des couleurs comme un spectre continu et en même temps, il en choisissait 7, le chiffre sacré de la chrétienté. Donc voilà, il y a toujours une part d'arbitraire dans nos choix culturels. Et nous, on a voilà, fini par être très adossé à ce type de découverte pour établir une liste, le rouge, le noir, le bleu, le vert. En fait, les Mursi renversent un peu la chose, ils ont plein de vaches domestiques, et il y a une des conséquences directes de la domestication, comme on le voit chez les chiens et d'autres, en fait, c'est souvent de multiplier les caractères physiques. Chez les animaux sauvages, au contraire, on aboutit à une homogénéisation des caractères, et chez les animaux domestiques, au contraire, à une multiplication des différences. Et ils ont, comme vous pouvez le voir là au centre de cette image-là, un ensemble de robes de vache. Alors il y en a des rayées, des tachetées comme en haut à gauche, différentes répartitions de noir et de blanc à droite, des couleurs un peu aquarellées en bas à gauche et tout. Et en fait, ces principales robes bovines vont servir de taxon élémentaire de la classification. Ça veut dire au lieu d'avoir rouge, blanc, vert, noir, ils vont avoir vache tachetée rouge, vache noire. Et en fait, à partir de là, ils vont comment dire, les couleurs de vache ne vont pas être la palette des couleurs idéales. Ils vont pas voir une vache brune rouge quand ils voient une cerise, mais une couleur telle qu'une cerise, un rouge vif, ils vont la rapprocher de la couleur de vache qui s'en approche le plus en fait. Et ce qui permet d'avoir une classification des couleurs qui est extrêmement inféodée à un environnement pour le coup écologique précis, à un mode de vie avec des existants qu'on est habitué à voir et tout, mais qui en même temps peut capter assez bien toutes les perceptions au monde. Et comme on peut le voir là, en fait, un paquet de Marlboro, une bouteille de Coca, en fait, est tout à fait descriptible à partir de noms de robes de bétail. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était voilà, une petite digression. Mais pour dire que ce n'est pas tellement une multiplication des couleurs possibles, puisque les couleurs sont comme nous données par une référence close, les robes de vache, mais au contraire, c'est un système qui, malgré une contextualisation extrêmement forte de la classification, peut intégrer tous les perceptions exogènes, précoloniales, en tout cas, qui n'existaient pas quand cette classification a été faite.
Merci beaucoup pour votre présentation et aussi pour avoir commencé par la fabrique concrète de votre objet de recherche. Je trouve que c'est toujours très intéressant de commencer par là. Et du coup, j'aurais voulu savoir, après, quand vous êtes rentré de votre terrain, il y a eu tout un processus assez long, j'imagine, entre le moment où vous avez écrit votre thèse, puis vous avez fait un livre à partir de cette thèse. Et en fait, ce que vous nous avez décrit, la suite de vos chapitres, est-ce que c'est une structure qui vous est apparue d'une certaine manière assez évidente à partir de votre travail de recension de pratiques, ou est-ce au contraire le résultat d'un processus beaucoup plus complexe de repenser un certain nombre de choses, de réécrire enfin voilà, parce que bon, je suis moi-même en thèse et donc je vois bien le processus où on est au milieu d'un océan d'informations et qu'il faut arriver à ordonner, à hiérarchiser. Du coup, j'aurais voulu en savoir un peu plus là-dessus. Et ma deuxième question, c'était sur la relation aux vaches, puisque vous dites qu'on raconte des poèmes aux vaches. Et du coup, j'aurais voulu savoir... parce que dans ce que vous décrivez, on voit beaucoup la question de l'organisation sociale, mais du coup... quel rôle jouent les vaches concrètement dans la vie sociale, matérielle, concrète ? Est-ce que vous avez, est-ce que c'était pas le centre de votre analyse, ou est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Merci.
Les points, oui, non, c'est plutôt là dans ma présentation orale, j'ai pas réussi à le rendre assez bien, parce que par exemple, pour établir les classes d'âge, pour ne pas contrevenir à un éthos égalitaire qui rendrait la confrontation hiérarchique plutôt insupportable. Là, il faut vraiment se dire qu'on n'est pas dans l'Afrique communautaire, là, comme il y a tous les poncifs, où tous les gens élèvent les enfants des uns et des autres et tout. Je sais pas si elle existe déjà, en tout cas, elle n'est pas là. Là, on a des proto-capitalistes qui se... Et du coup, il y a un ethos très égalitaire de libre entreprise. Le mot est un peu... rhétorique managériale, mais c'est un petit peu ça. Et du coup... pour légitimer cette hiérarchie de classe d'âge, en fait, ils vont plutôt non pas s'opposer les uns aux autres pour savoir qui est plus vieux et tout, mais opposer leur relation en fait aux vaches. Et selon qu'on est en train d'avoir un certain type de relation aux vaches, en train de les capitaliser, en train de les donner pour se marier, en train de réciter un certain type de poème qui décrit la mise à mort ou qui au contraire décrit autre chose et tout, en fait, c'est plutôt cette triangulation par la vache qui permet de répartir les personnes sur une échelle de maturité différenciée, qui fait qu'à la fin, ça permet de fournir un ordre hiérarchique. Une fois de plus, dans le bouquin, j'essaie de décrire, et ce que je m'apprête à faire un peu plus après, c'est vraiment de ne pas séparer les deux ordres, la vie matérielle d'un côté et la vie qui serait dite symbolique de l'autre, mais d'essayer de repérer les modes d'existence des choses. Il y a des vaches dans des mots, il y a des vaches dans de la viande, il y a des vaches dans du lait, il y a des vaches dans des intentions, il y a des vaches, voilà, de plein de sortes, et arriver à justement décrire quel est le rapport causal de chacune de ces intentions sans faire une espèce de distinction grosse entre l'un qui serait, une fois de plus, causal et l'autre qui serait expressive d'une causalité préalable. Sur votre première question, non, un livre, je crois là avoir une proposition assez générale, un livre, une thèse, n'est pas du tout la mise à plat du processus de recherche. Un livre, il y a quand même un processus, c'est un outil de communication de recherche, de communication d'analyse, de communication de données, mais entre ce qu'on a vu qui est multiforme avec une nature des données. On a une discipline que vous faites aussi, donc extrêmement bizarre, parce qu'il y a une phrase de Sperber dans Le Savoir des Anthropologues qui est géniale, 82, qui dit un anthropologue, il rentre avec des bouts d'entretien, des classifications, un herbier, des analyses sur lui, des descriptions de maisons. On a une multiplicité des choses qu'on a vues et une multiplicité des manières de les avoir écrites qui déjà fait que c'est le bazar, en fait. Et ensuite, tout ce qu'on essaye, nous, c'est de donner de l'intelligibilité à ça, en fait. Les gens qui vivent cette vie-là, en fait, pour eux, la question ne se pose pas, donc ils n'ont pas à le rendre intelligible, puisqu'ils la comprennent, ils la font, et le but, c'est d'augmenter les compétences dans leur vie. Et tout. Nous, il faut qu'on essaye de trouver aussi un langage qui permet de parler de leur vie, aussi potentiellement de manière comparative. Si on utilise le mot « rituel » et non pas le mot « local » pour décrire ces choses-là, c'est que ça permet de mettre en lien deux activités, parce qu'on a dit... Et en fait, on essaie de rendre intelligible des choses. Du coup, on va amalgamer des faits ethnographiques qui, sur le terrain, n'étaient pas liés. On va, au contraire, séparer des choses qui, sur le terrain, c'était dont on est un peu ensemble. Moi, sur le terrain, j'ai eu à voir mes deux derniers chapitres qui sont des histoires. Mes deux derniers chapitres, c'est des histoires, en fait. Mais de là, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et il a fallu, moi, pour comprendre un peu ce qui se passait, que je segmente ça. Attends, il y a des bijoux, il y a des peintures, il y a des noms, il y a des machins, il y a tout un tas de bordel. Et du coup, je vais d'abord essayer de segmenter une activité qui s'appelle nom, en fait, et de multiplier les fois où les noms arrivent. Mais les noms, à chaque fois qu'elles m'arrivaient comme occurrence effective à décrire, à comprendre, elles étaient incluses dans une action qui est plus grande. Donc, c'est tout à fait artificiel. Après, artificiel et construit, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que c'est une manière d'essayer de comprendre et de mettre en ordre un monde, quoi. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai essayé de donner une progressivité analytique en organisant ces corpus de telle sorte qu'on commence par des micro-interactions pour finir par des grandes histoires entre des groupes. C'est un choix, on aurait pu en faire d'autres. Il y a peut-être quelques travaux d'anthropologie qui peuvent être le récit quasiment de la recherche, mais à ce moment-là, c'est un choix qui est tout aussi arbitraire et c'est un choix qui doit être justifié par un gain analytique fort. Voilà, faire un espèce de truc de dévoilement progressif et de compréhension progressive, peut-être que ça marche si justement vous-même les acteurs sont dans une configuration où ils découvrent les choses peu à peu, en fait, où votre procédure de recherche est aussi le témoin d'une procédure que les gens font. Voilà, si c'est pas le cas, non, et c'est pour ça qu'au début j'employais le mot d'économie d'écriture. À un moment donné, tout ce bazar et les 2-3 outils, les 2-3 cases qu'on a fait pour le comprendre, il faut qu'on arrive à en faire un livre qui va être lu par d'autres et qui va être acceptable. Voilà. Donc non, il y a un travail énorme. L'avantage qui est, comment dire, le désavantage de ce terrain-là, c'est qu'il était dur physiquement. Psychologiquement, ça allait, en fait. Je pensais qu'il y a des terrains en ville beaucoup plus durs où on peut être complètement agressé, harcelé et tout. Là, c'était pas le cas. Ces gens-là sont plutôt chouettes. C'est physiquement où c'était un peu dur. Et puis, j'avais pas de visa de recherche, donc c'est compliqué. Des fois, je dépassais un peu la date, mais à la douane, c'est compliqué. Et puis, j'avais pas de financement. Donc, Décathlon, on gagne pas des milliers d'euros en 2 ou 3 mois. Donc, on peut pas partir pendant 6 mois et tout. Donc, j'ai un peu segmenté mes périodes sur quelques mois, en fait, et ça me permettait à chaque fois de faire un premier test un petit peu. Par exemple, sur la collecte de noms, comme au début j'y comprenais rien, j'ai commencé à faire des entretiens individuels pour comprendre la liste de noms. Et en même temps, les gens ne me donnaient jamais une liste. Il fallait à chaque fois que je dise, mais un tel, comment il t'appelle? Ah, ben là, il me dit ça. Et un tel, comment il t'appelle? Il me dit ça. Et en fait, il fallait à chaque fois que je donne la relation pour qu'il me donne un nom. Du coup, je me suis dit, je vais faire mon petit échantillonnage. Un village, un campement de bétail, 20 personnes, je fais mon tableau Excel et je fais des entretiens avec les 20 pour savoir comment les 19 autres l'appellent, enfin avec les 19 pour savoir comment on est. Et j'ai mes tableaux. Et puis je me suis dit, j'ai jamais fait de parenté pendant mes études, ça me saoule, mais je sais que c'est important, en fait. Et mon directeur de thèse est un spécialiste de la parenté, donc je vais quand même faire mon bon élève, il était temps, en thèse, et du coup je vais doubler ces tableaux Excel avec les rapports de parenté. Donc je demande, en me disant, est-ce qu'il n'y a pas une correspondance entre le type de poésie dans les noms et le type de parenté que l'on a, en fait, avec ces personnes. Et avec une thèse encore plus séduisante que les enfants savaient nommer les personnes avant de décrire le rapport de parenté qu'ils avaient avec eux. Donc je me suis dit, si on apprenait la parenté par la poésie d'un vache. Là, c'était super classe. Je rentre avec ces données-là, je ne trouve pas. Je viens voir mon directeur de thèse, je lui dis, peut-être j'ai pas compris, peut-être j'ai trop séché les cours de parenté à la fac. Et en fait, lui m'a dit non, en fait, juste, ça ne marche pas. Ce n'est pas la parenté qui est organisatrice. Et c'est au contraire le vécu idiosyncrasique réellement effectué entre des personnes qui crée les différences entre les noms. Ce n'est pas postulé par des réseaux de parenté qui préexistent. Et ça, c'est vrai que faire ce terrain-là, j'ai mis un mois à faire 1635 réponses dans ces quatre trucs. Parce qu'évidemment, pasteurs transhumants qui ne vivent pas ensemble, il faut aller les chercher, quoi. Donc des fois, c'est une journée, 20 km aller pour un gars, 20 km retour parce que voilà, et parfois il n'est pas là, quoi. Voilà, donc j'ai mis un mois pour me dire que la moitié du travail ne sert à rien. Et du coup, le terrain d'après, j'ai fait des entretiens plutôt biographiques pour essayer de comprendre cette liste de noms, puisque la collecte de réseaux de parenté ne fonctionnait pas. Donc c'est effectivement un jeu d'aller-retour permanent, et la forme finale, c'est un choix d'administration de la preuve, en fait. Ce n'est pas les données qui créent la forme de votre travail. Il ne me semble pas, quoi.
Ouais, j'ai une question, alors pas directement sur votre exposé, qui était en effet particulièrement intéressant, mais quelque chose qui attire mon œil depuis tout à l'heure, hein, peut-être parce que j'ai devant, alors je suis relativement sensible aux documents iconographiques, moi-même dans mes propres travaux, et je vois ces personnes avec des fusils d'assaut, et je le retrouve ici, et... Je m'interroge véritablement, alors parfois c'est le choix de l'éditeur, mais là c'est vos propres photos, j'ai même retrouvé non recadrée, elle est juste partiellement recadrée a priori. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces fusils d'assaut qui sont quand même là? Parce que j'ai l'impression qu'ils tiennent une place.
La graisse de vache.
Voilà, parce que je me posais la question, j'ai lu, elle est légendée, donc ce qui est déjà très bien, donc on voit que ça a été un sacrifice rituel, mais j'imagine qu'il n'a pas été abattu avec le fusil d'assaut, ou peut-être. Et en tout cas, voilà, si vous pouvez nous dire deux mots sur le... C'est quand même omniprésent, hein, dans l'ensemble des photos.
Ouais, ouais.
Ces fusils d'assaut sont bien là.
Ouais. C'est omniprésent. Et c'est, ouais. Alors là, depuis deux ans, depuis la fermeture du Covid, la fermeture du monde, en fait, ce fameux président éthiopien qui a eu le prix Nobel, et qui pourtant est un chef de guerre aussi, prix Nobel de la paix. Hein. Voilà, bon, ben, y a eu plein de groupes, dont les Morsi, qui se sont fait un peu attaquer par les polices locales. Et apparemment, il y a une grosse partie du territoire, j'ai pas remis les pieds, mais auquel on a pris toutes les armes. Parce qu'évidemment, ils ont une force de combat évidente, quoi. Ils n'ont pas une quantité d'hommes énorme, mais ils maîtrisent la connaissance du territoire très, très bien. C'est un autre aspect dont j'ai pas évoqué là, mais pastoralisme et éthos martial, ça cohabite souvent, puisqu'il y a deux manières de créer du bétail, de produire du bétail. C'est la reproduction sexuée du bétail entre eux, et c'est le vol, quoi, le raid. Et surtout, avec, en plus, on a une habitude de circulation, culture matérielle peu encombrante et tout, c'est propice en fait à ça. Du coup, il y a un vrai apprentissage réel qui s'inscrit dans les corps. Je veux dire, moi, au début, quand je dis que physiquement le terrain a été dur, parce que on dormait par terre. À un moment donné, je commence à dire, bon, les gars, vous avez du foin, vous avez des pots, il y a moyen de se faire un matelas, quand même, on dort un peu mieux. Et en fait, non, c'est pas juste, parce que moi, là, j'étais un peu sur le mode, il serait temps de... Non, absolument pas. En fait, c'est... Non, surtout pas. Nous, on est de la poussière rouge. Nous, on est des nuages, en fait. Et là, et en fait, le gars, il est en train de te dire que moi, je suis un dur et tout, quoi. Et les jeunes, en fait, on les empêche de dormir dans des huttes, quoi. J'ai une image, un petit film même qui est génial. Je vois au pied d'un arbre un peu de paille, une espèce de peau qui est trouée. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est là où je dors. En saison des pluies, enfin c'est un peu gros. Il fait, ouais, non, mais voilà, quoi. Et je bois du sang, quoi. Donc il y a un vrai apprentissage, en fait, d'être dur. Et un vrai éthos martial de se battre, les scarifications. Là, la photo, je vais quand même vous la mettre, hein. Il serait temps. C'est ahurissant, l'autocontrôle, qui est certainement du coup fruit d'un apprentissage assez long. Mais cette femme-là, qui avait un bébé, on la voit sur la photo que j'ai mise au début, où il y a les deux femmes, c'est celle qui tient le bébé. Hop, attendez. Elle arrive, voilà. elle était avec son bébé. Et puis à un moment donné, un bébé, on est tout là, machin, c'est le jour là, je vais me faire les trucs. Ah, et moi j'imaginais le truc rituel un peu, machin. Et non, en fait, c'est juste on le fait là. Il y a une femme qui vient avec un rasoir, une épine, et elle commence à tracer donc, des grands traits avec une tige, et puis ensuite avec l'épine, elle lève, tchac, tchac, elle lève, tac, tac, elle lève, elle fait ça. Là, on la voit, elle sue comme c'est pas permis. Au début, elle parlait, elle se marrait, à la fin, elle dit plus rien, mais elle dit rien, quoi. Rien. Et puis après, on met un peu de cendre au-dessus, elle se relève avec son bébé, elle l'allaite et elle repart travailler au champ, quoi. Donc il y a un réel apprentissage de ça. Ce qui fait que voilà, il y a une, comment dire, un ethos martial qui est bien là et qui avant se faisait avec des lances, en fait, essentiellement. Puis l'accès à l'économie de marché, l'accès qui est partiel et ponctuel, mais permet d'avoir des machettes, qui pour travailler au champ, c'est quand même un petit peu plus simple. Et puis, il y a eu l'effondrement du bloc communiste. Ah, et ah, histoire globale. Et en fait, ça a fait qu'il y a eu plein d'entrepôts remplis de Kalachnikov mis en vente, puisque la guerre froide était finie et parce qu'il y avait ce surplus de vieilles armes, en fait. Et là, alors là les marchands d'armes s'en sont donnés à cœur joie et ont notamment largement pourvu le Soudan, en fait, en armes. Notamment le Darfour, et puis ensuite le Soudan du Sud qui était en guerre. Et les Mursis sont vraiment tout au sud de l'Éthiopie, à côté de la frontière du Soudan. Et en fait, ils sont souvent en guerre avec les Nyangatom, qui sont un peu au sud d'eux, et les Toposa, qui eux sont au Soudan et qui ont accès en fait à ce surplus d'armes, quoi. Et dans les années, fin des années 80, début des années 80, David Thornton, qui était un Anglais qui était donc allé chez les Mursis, qui était le seul hein, jusqu'aux années 2000. Il a vu les Mursis être victimes de raids, comment dire, habituels et traditionnels sur la forme, c'est normal, hein, mais seulement il y en avait qui avaient des armes automatiques et d'autres non, quoi. Et du coup, il a même fait une demande au gouvernement éthiopien d'armer en fait les Mursis pour remettre un peu l'équilibre des forces. Et c'est devenu en quelques années très vite, ça a remplacé vraiment la lance. Donc il y a toujours des duels au bâton qui se font en fait extrêmement fort et tout, mais c'est la tribu. Dans les prestations matrimoniales, ça vaut quelques têtes de bétail, donc ça tient aussi lieu de ça. Il y a eu Sarah Hutchinson qui a fait un espèce de l'énuer bis dans les années 80, qui a montré justement tous ces changements, l'introduction de l'argent, des armes à feu et tout. Mais là, c'est vrai que jusqu'à il y a peu, ouais, ils avaient tous une arme en fait, voire plus. Et c'est vrai que les Kalachnikovs, c'est génial parce que ça tire tout le temps et partout. Alors ça attire à gauche quand on vise à droite, mais par contre ça attire, quoi. Ça c'est parce que là voilà, on le voyait, il le nettoyait, enfin il le graissait avec de l'intestin, quoi. C'était ça passe, quoi.
Oui, je voulais vous demander trois petits trucs. D'une part, vous avez fait allusion à l'alimentation quand vous avez parlé du sang. Bon. Dans un peuple de pasteurs, en tout cas chez les Mursis, quels sont les aliments principaux? Est-ce que la viande est consommée? Parce que je crois, enfin moi j'ai connu certains peuls qui n'y touchent pas, bon, contrairement au lait. Ça c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que vous avez une étiquette sur votre approche par rapport à l'anthropologie structurale ou culturaliste, etc. Ou ça vous intéresse pas d'en avoir une. Et puis troisième, alors là vous allez dire c'est du grand n'importe quoi, mais est-ce que vous y a des gens qui s'intéressent à l'interpénétration entre les peuples pasteurs et les sédentaires? D'une manière globale, c'est-à-dire pas seulement dans toute la bande sahélienne jusqu'à l'Éthiopie, mais aussi, bon, évidemment, Rwanda, Burundi, mais j'irais même jusqu'en Inde, où alors c'est sûrement un très vieux phénomène, mais où il y a eu cette rencontre qui laisse des sacrées traces. Quoi.
Sur l'alimentation, là aussi, un élément qui complique un peu la donne, c'est que on parle bien d'éthos pastoral. Dès la citation d'Evans Pritchard, il précise qu'il y a plus ou moins d'agriculture selon les groupes. Les Maasai n'ont presque aucune agriculture. Ils ont énormément de têtes de bétail. Les Mursis ont, proportionnellement aux pasteurs d'Afrique de l'Est, assez peu de bétail. Mais par contre, c'est avoir du bétail qui est un compte, mais ils ont environ 1 à 2 têtes de bétail par tête, humaine en fait, ce qui n'est pas énorme. Et du coup, une grosse partie de leur diète vient de l'agriculture, de sorgho et de la cueillette de feuilles. C'est, en gros, c'est les trois trucs, hein, lait, sorgho, feuilles. Mais par contre, c'est vu effectivement comme des activités tout à fait secondaires qu'il faut faire, qu'il faut bien faire, mais qui ne sont pas au centre. Il y a même certains groupes qui n'ont plus de bétail suite à des épidémies et qui conservent tout à fait les manières relationnelles de pasteur de vie. Il y a aussi une étude de Pierre Smith qui parlait des Hutus et des Tutsis au Rwanda, où au final il n'y avait que 20% de Tutsis qui avaient du coup cette possession et cet ethos pastoral et qui ont réussi à intégrer en quelque sorte les Hutus avec qui sont des agriculteurs dans cette hiérarchie de valeurs propre au pastoralisme, malgré le fait que les Hutus n'en possèdent pas ou très peu, en fait, ils aient été repris avec ça. Donc, une fois de plus, ethos pastoral d'un côté et mode de subsistance de l'autre, ça ne se recoupe pas, en fait, de manière exacte. Et oui, il existe tout un tas d'interdits qui ne sont pas des interdits pérennes, comme le seraient les véganes, il n'y en a pas qui ont des prescriptions, des interdictions trop strictes. C'est souvent dans des processus, on ne peut pas boire du lait si on a bu du sang la veille, on ne peut pas prendre tel aliment si on a eu une relation sexuelle dans les trois jours avant. Enfin voilà, il y a ce genre de petites interdits, mais je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ça. C'est dans mes coins de notes. Mais j'en ai rien fait, je ne sais pas si j'en ferai un truc un jour, mais voilà. Pour répondre à votre question, quelle étiquette théorique je pourrais avoir, là c'est chaud là quand même, enfin c'est compliqué parce que, non en fait je crois que c'est pragmatiste, dans la double acception du terme pragmatique et pragmatiste, pragmatique parce que c'est... une manière de concevoir au départ le discours, donc pas que par la sémantique, mais aussi par son pouvoir performatif. Et il y a eu un développement des études rituelles, des études pragmatiques, qui une fois de plus ne focalisaient pas que sur le symbolisme déclenché ou mobilisé par des rituels, mais par qu'est-ce que faire telle action, ça produit, ça fait, quelle expérience ça crée. Moi, j'étais très marqué par ça, parce que j'ai été formé par des ritualistes, bien que je me sois retrouvé dans un endroit où les rituels sont beaucoup plus plats que dans beaucoup d'autres endroits, mais c'est au contraire le quotidien qui est extrêmement dense et riche. Je veux dire, les rituels ne font pas plus l'objet d'ornementation que le quotidien, ce qui est déjà une marque. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ces approches-là, pragmatiques, pour comprendre en fait tous ces micro-contextes interactionnels et ces usages de l'esthétique. Et pragmatiste, dans le sens plutôt de la sociologie de Boltanski et d'autres, ça veut dire ne pas envisager, je le fais vraiment à grands traits, hein, parce que une sociologie, disons, durkheimienne, qui donnerait un cadre au sein desquels les acteurs vont agir, mais au contraire, des pensées beaucoup plus réflexives sur le social en train de se construire. Et c'est à partir de le pragmatisme de Boltanski, ça s'appelle aussi la sociologie des épreuves, en fait. C'est que le social se révèle quand il est face à des épreuves. Et là, on voit les acteurs en train de sortir des stratégies et des choses. Et ce que j'ai fait pour distinguer ce que j'ai appelé rituel et politique, une fois de plus, ça, c'est un point du livre où je me contredirai dans pas très longtemps. Mais en gros, c'est qu'à un moment donné, ces structures du politique émergent suite à une épreuve, en fait. Et en fait, à chaque fois, ça met à l'épreuve et ça rentre assez bien dans la modalité de constitution de ces groupes qui n'ont pas d'idées surplombantes et normes sur eux-mêmes, mais qui sont confrontés à tout un tas de problèmes qu'ils tentent de résoudre. Donc voilà, ce sera un mélange de pragmatique et pragmatisme. Là, c'est pas trop structuraliste, je crois, malgré mon affiliation à un laboratoire. Ça, c'est au final, il y en a plus beaucoup quand même, je crois. Voilà. Oui, non, là oui, juste pour dire, mais là il y a de plus en plus de travaux justement sur l'histoire de l'Afrique. Là, il vient d'y avoir une chaire là sur l'histoire de l'Afrique médiévale, une chaire du Collège de France qui vient d'être occupée par François-Xavier Fombelle. Donc, c'est pas la première chaire africaine au Collège de France avec François Héritier, quand même. Mais là, c'est une chaire de l'histoire de l'Afrique et d'une histoire, du coup, assez ancienne. Et là, ça commence à se développer énormément. On reconnaît de plus en plus une véritable source archéologique, en fait, à ce continent-là, contrairement au discours de Dakar, de Sarkozy, complètement idiot, en fait. Et là, en fait, ça émerge de plus en plus, et on découvre des royaumes au Soudan avec des forteresses, des cités énormes. De même qu'en Amérique du Sud, en Amazonie, on s'aperçoit que c'était pas des petits groupes d'Indiens, mais des espèces de cités de milliers de personnes ou avec une occupation dense et tout. Donc voilà, mais ça, c'est en train de venir. Et du coup, tous ces effets de migration de zébus qui sont effectivement une sous-espèce de vache asiatique qui a fini par arriver en Afrique de l'Est, c'est aussi ces archéologues historiens qui sont en train de retracer cette histoire de la domestication et de l'introduction des zébus en Afrique, quoi. Voilà. Mais là, c'est pas trop mon domaine.
Je vais juste poser une petite question sur le titre Amour vache. Donc, est-ce que vous pourriez commenter un petit peu la partie concernant la relation affective entre les personnes et les bovins, donc quel type de relation au quotidien, hein, je veux dire ordinaire, est-ce que voilà, le pastoralisme c'est vaste, on peut pas non plus tout de suite imaginer ce que ça revêt en fait comme type de relation. Juste ce terme amour qui est au cœur de votre titre, j'aimerais bien que vous le déployiez un peu plus, quoi. Merci.
Vous faire la scène. Concrètement, ce qu'Amourcy fait avec sa vache, c'est oh Jérôme, ta couleur, oh Jérôme, ta nuque, oh Jérôme, je t'amène au centre du cercle de pierre pour te tuer. Oh Jérôme, tu es tellement beau, mais je vais te tuer. Et puis après, on va te manger, on va te regarder en train de. C'est ça, en fait. Du coup, Amour vache, c'était en fait. Excuse-moi, je. C'est pas vrai, hein, mais c'est sa vache. D'accord. Non, et en fait, c'était vraiment un jeu de mots, parce qu'on peut s'en permettre ça que dans les titres, hein, parce que voilà. En fait, c'était à la fois pour reprendre l'expression réelle qu'il y a dans la littérature, où on a parlé de l'amour de la vache. La version, disons, un peu sympa de l'obsession, en fait, c'était l'amour de la vache, parce qu'effectivement, on sent cette implication affective. Et puis, comme je vous disais, un pasteur est en train de chérir le bovin qui porte son nom, qui est aussi source d'inspiration de tous ses noms et tout. Donc, il y a une vraie charge affective dans ce bovin dont on s'occupe. Et amour vache, parce qu'une des particularités, c'est que ces bovins sont... On construit le corps du bovin en lui trouvant des pâturages qui vont bien, mais on construit aussi un corps respectable et beau, et on se construit en parallèle de lui. Et comme je vous le disais, les problèmes chez les Moursis ne sont pas du tout interprétés, comme dans d'autres endroits en Afrique, comme en Afrique centrale, selon le schéma sorcellaire qui, en gros, est il y a un problème, il y a forcément une intention malfaisante à l'origine du problème. Une espèce de théorie du complot. Voilà. Et en fait, là, ça va être au contraire interprété comme celui qui est victime du problème, une maladie ou autre, c'est le fruit d'un désordre relationnel auquel il a contribué. Or, ma vache fait partie de ce maillage relationnel que je construis et tout. Du coup, une manière de repartir sur de bonnes bases, c'est de le faire disparaître, de le tuer, devant des témoins qui vont tous le manger, et moi je reste là, assis à regarder, à pleurer éventuellement. Donc c'est aussi des injonctions morales et ça. Et du coup, c'est Amour vache parce que c'est réellement les poèmes bœufs que chantent les jeunes hommes à leur bœuf, à leur veau, qui sont en train de caresser avec des feuilles, de dire qu'ils sont beaux et tout. C'est exactement ça. C'est je vais te tuer, je vais t'amener au centre du cercle de pierre. Donc ils anticipent le moment où ils devront se séparer de ça. Et du coup, c'est un truc étrange, quoi. Voilà. Et une fois de plus, c'est comment dire, un travail qui participe d'une mise en valeur de ses bonnes qualités relationnelles et sociales, et en même temps c'est la capitalisation en cas de problème, mais pas forcément une capitalisation protéinique puisque le propriétaire n'en profitera pas, mais une capitalisation compensatoire d'un désordre moral que des anciens exigeront de moi pour prouver à quel point, voilà. D'où le titre Amour vache, en fait, qui jouait sur ce... D'ailleurs, sur le site internet du Bistrot des Ethnologues, ce titre a dû marquer la personne qui a fait l'affiche. Voilà. Parce qu'il y a écrit, non pas amour vache, esthétique, sociale, blablabla, il y a écrit la vengeance des amours vaches. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors, c'est peut-être pas le moment d'en parler, d'accord ? Mais voilà. Donc c'est sur le site internet, j'ai fait la capture d'écran au cas où, hein. Je me couvre. Non mais voilà. Ça, non mais au moins c'est évocateur. Là j'ai bien vu que voilà, on s'y retrouve tous quoi. Oui.
Voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la mise à mort.
C'est ça. Voilà, mais justement dans le livre je parle de mise à mort parce que c'est pas des sacrifices comme a été établi selon la tripartition, quadripartition en fait de Moss. Il y a le sacrifiant, le sacrifié, le sacrificateur et les dieux à qui on donne en fait, c'est un peu le schéma. Et après, toutes les études, notamment sur l'Afrique noire, se sont servies de ce modèle-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une mise à mort, c'est un sacrifice parce qu'il y a des actions rituelles, des paroles, une offrande souvent à un être invisible X ou Y et tout. Il y a tout un monde qui est créé au moment de le tuer. Et c'est pour ça que ça porte le nom de sacrifice. Dans le cas auquel j'ai eu affaire moi, en fait, j'ai justement été confronté à un quotidien hyper complexe avec des paroles et des machins. Par contre, la mise à mort, la vache, elle arrive, on prend une pierre, on lui met un coup à l'arrière de la tête, elle meurt, on la découpe, on la mange, quoi. Du coup, c'est une mise à mort en simple et qui, justement, une des fonctions du rituel, je pense, dans cette région-là, souvent le rituel sert à produire des expériences qui viennent reconfigurer un quotidien, en fait, qui est très clair. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de rituels avec de la condensation rituelle, des paradoxes, des esthétiques un peu étranges, des actions pas intelligibles en première instance et tout, parce que ça permet de vivre des expériences extraordinaires pour reconfigurer. Là, au contraire, on a une vie sociale qui est complexe et les rituels ont au contraire une espèce de simplicité. Et moi qui venais armer justement mon ancien directeur de thèse qui était spécialiste de parenté et de rituel, je vais essayer de lui faire plaisir d'être de côté, ça ne marchait pas pour le rituel aussi en fait, parce qu'il y avait une complexité très forte. La seule distinction qu'il y a entre deux types de mise à mort, quand je vous disais qu'il y a cet effet de capitalisation morale, où je mettrais en scène mon renoncement pour en reconstruire un et pour en quelque sorte expier ma faute et tout, et à la fin de la religion nuère d'Evans Pritchard, il a un dernier chapitre où il parle de fort intérieur, de machin, et en fait, tout le monde a dit, ouais, c'est bon, il vient de se convertir au catholicisme, il est en train de projeter. En fait, peut-être parce que je suis de culture catholique aussi, mais il y a quand même des effets de moralité, de renoncement et tout, qui sont quand même là, en fait. Il me semble que c'est des faits ethnographiques aussi, en fait. C'est pas juste une projection. Et en fait, cet effet de capitalisation pour une future mise à mort, dans la plupart des cas, c'est un de mes bœufs, selon le problème que j'ai moi, plus grave est le problème, plus c'est une pièce, une tête de bétail importante. Mais dans certains cas, il peut y avoir une espèce de générosité sociale. Quand c'est un problème type une famine, c'est-à-dire qui n'a pas une cause très précise qui concerne tous, il peut y en avoir un ou deux qui décident de donner son bœuf. Et à ce moment-là, ce n'est pas tant un renoncement pour expier sa faute à toi que moi, je suis la métonymie du groupe en acceptant de donner, voilà. Donc c'est celle-là, c'est plutôt ces deux types de mise à mort qui se distinguent, mais dans l'acte même, c'est assez simple, assez...
Et peut-être pour compléter par rapport à cette question du rapport ambigu qu'il y a entre un rapport affectif fort et finalement une utilisation, une capitalisation pour résoudre des problèmes sociaux. Je me demandais quelle était... je fais une grosse projection, parce que je suis aussi en thèse et j'ai des terrains d'enquête en France, en élevage. Quel était le rapport de soins, du coup, du vivant de l'animal entre donc les pasteurs et les animaux, et si toutes ces poèmes et ces symboliques, en plus de participer, donc à avoir une fonction symbolique dans l'organisation du système... politique et sociale, avait aussi un rôle dans un rapport de soins avec ou d'autres choses, hein, pas forcément de soins, mais en tout cas de relationnel avec l'animal lui-même.
Merci de votre question. Le problème de ma réponse, c'est que dès qu'on dit, quand on parle de ces gens-là, pourquoi le bovin machin, en fait, faut donner 200 pages à chaque fois parce que c'est justement, il n'y a pas un lieu, une fonction très claire à partir duquel se construit la chose. C'est une multitude d'actions qui comprend le bovin qui permet de comprendre un peu ce que les gens font avec ça, en fait. Donc je ne peux pas vous donner une réponse très précise. Ce qu'il y a de particulier aussi pour justifier, aller un petit peu plus loin dans cette amour vache, c'est devenu très à la mode d'envisager le rapport homme-animal à partir d'une personnification, en fait. Et notamment avec le revival animiste et les prophètes écologiques de tout ordre et tout, on parle de l'animal comme d'un être doué d'une intériorité avec lequel on interagit. Alors, c'est pas un équivalent de nous, mais il a une psychologie intérieure, il a des capacités de communication et toutes ces choses-là. On s'en sert aussi pour se transformer dans des rituels initiatiques, on s'en sert pour plein de choses et tout, mais en tout cas, il y a une relation qui est plus de l'ordre d'un dialogue, en fait. Et paradoxalement, c'est pas une critique de ces travaux-là, même si parfois ils choisissent un peu trop les super prédateurs à mon goût, ce qui révèle aussi des choix symboliques qui nous appartiennent peut-être à nous plus que d'autres. Voilà, moi j'aimerais bien un jour qu'on parle, mais moi je parle des vaches, qu'on parle des chèvres et qu'on parle des cochons d'Inde, des animaux domestiques, des pets, voilà, et qu'on en parle en fait dans la relation qu'on a aussi en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les morcilles, là où on pourrait s'attendre justement, parce qu'il y a un truc affectif fort, que ce soit un affect qui soit envers un animal personnifié en fait. Et ce qu'il y a de très particulier en fait, c'est que ces affects, c'est là où je vous dis qu'il faut beaucoup de descriptions pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et je vais faire mon prof à vous dire, je vous enverrai de la bibliographie de mon nom, mais en fait c'est un jeu pour en dire que là sur le zinc c'est un petit peu dur, mais en fait c'est que c'est un animal qui n'est pas un alter ego comme une autre personne un peu différente qu'on aime. C'est le fruit de tout un travail, en fait. Donc, il est aussi la métonymie de tout un réseau social. Il est la concaténation de tout un tas de pratiques, de tout un tas de moments, de tout un tas de noms, de rôles dans des poèmes, de chaleur dans la nuit, de plein de choses et tout, qui le rendent précieux, important, vers lequel il y a des affects. Affects qui, justement, sont assez peu la norme entre les personnes. Comme je vous dis, c'est des personnes qui sont en moyenne assez dures, quoi. On va pas se serrer dans les bras, on va pas se checker, on va pas se montrer qu'on pleure et tout. Par contre, avec le bovin, alors là, on peut tout. Hein. On caresse, on pleure, il n'y a pas de problème. Là, on a. Et du coup, ça permet aussi de vivre ces émotions-là, ces choses-là, mais sans pour autant que l'objet même qui déclenche ça soit une personne avec laquelle on interagit. Parce qu'au final, et c'est ça aussi qui rend possible ce sacrifice-là, c'est que on renonce à une quantité de travail, on renonce à des affects agrégés là, mais on peut en refaire un. Et selon des conditions beaucoup plus facilement réalisables que j'ai perdu l'amour de ma vie, il faut que j'en trouve un autre, quoi. Là, on galère un peu plus. Là, il suffit de retrouver un taureau noir et on se débrouillera, quoi. Ça redemandera du travail, ça redemandera plein de choses, mais l'essence même, la propriété que j'ai en partage avec lui, en fait, on la retrouve vite. Et après, je refais le boulot. Et en fait, voilà. Donc, c'est plus de cet ordre-là. Et c'est vrai que ça s'oppose beaucoup avec ce qui domine actuellement les études des relations entre les existants, où c'est sur le mode animiste, dire une extension d'intentionnalité anthropomorphe, une extension de la sensibilité à d'autres existants animaux, en fait. Voilà. Ce qui, d'une certaine façon, reste anthropocentré, puisque un animisme perspectiviste à la vieille Véros de Castro attribue à d'autres existants une vie sociale équivalente aux humains entre eux, en fait. Voilà. Là, c'est absolument pas le cas. Les morcilles, il me semble, en tout cas, de ce que j'ai compris, se préoccupent assez peu de savoir ce qu'une vache pense et de dialoguer avec elle, quoi. Voilà.
Les culturalistes.
C'est ça. C'est ça.
Merci infiniment, merci à toutes et à tous, merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Il est temps de procéder au sacrifice rituel post-bistrot et d'abord de remercier évidemment une fois de plus notre invité pour sa présentation et sa gentillesse de répondre à nos questions.
Merci de votre accueil.